France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes dans la Somme cette semaine, département des Hauts-de-France. Et aujourd'hui, j'ai deux appels importants à relayer. Celui d'abord d'un agriculteur à la retraite, près d'Amiens, qui cultive des pommes de terre pour les donner au Resto du Cœur. Il cherche du renfort et des terres pour produire plus de patates et pour en donner plus. Je lui passe un coup de fil tout à l'heure. Mais avant cela, la parole est à une association qui recrute des bénévoles pour surveiller la plage. Non, il ne s'agit pas de jouer les sauveteurs en mer, mais de protéger les phoques. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Et nous sommes dans la baie de Somme, bien sûr. Les phoques, animaux emblématiques de cette baie, aussi charmants que passionnants, ils peuvent être effrayés par les êtres humains. Aussi faut-il des vigies sur place pendant la saison touristique. C'est l'association Picardie Nature qui organise cette surveillance à Cailleux-sur-Mer. Bonjour Sarah Monet.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets. Vous êtes chargée de mission mammifères marins au sein de Picardie Nature, l'association qui organise cette surveillance depuis plus de 30 ans maintenant. Quelles sont les particularités de ces phoques de la baie de Somme ?
Ah, effectivement, ils sont passionnants et en plus, il y a deux espèces présentes en baie de Somme. Le phoque beau marin d'un côté qui va se reproduire au cœur de l'été et le phoque gris, son cousin, qui lui va se reproduire au cœur de l'hiver. Le phoque beau marin, il est un peu plus petit que son cousin, le phoque gris. Il est plutôt d'une dimension, d'un bon gabarit humain, 1m60, 1m80 pour 90, 100 ou 110 kilos. Alors que le phoque gris, lui, est plus gros. Les gros mâles peuvent faire jusqu'à 2m et 250 kilos.
Alors, je le disais, vous cherchez des bénévoles. Pourquoi faire précisément?
En fait, effectivement, les bénévoles vont nous prêter main forte sur le terrain pour nous aider à sensibiliser les gens qui viendraient voir les phoques sans connaître leur biologie pour éviter les dérangements.
Pourquoi est-ce qu'il est dangereux de s'approcher d'un bébé phoque en particulier?
En fait, ça peut être dangereux pour les humains et pour les animaux. Pour les humains, en fait, tu as toujours des risques de griffure et de morsure. Hein. Ça reste un animal sauvage, un prédateur marin supérieur qui est bien équipé pour ça. Et pour les phoques, en fait, ça peut créer des séparations entre les mères et les jeunes qui viennent juste de naître. Et en fait, ça va créer un abandon pour le petit.
Pourquoi la mère abandonne-t-elle le petit quand elle voit un être humain ?
En fait, la majorité des réflexes dans le règne animal, c'est d'abord de se sauver soi. Donc, c'est en fait, la mère va prendre peur et va fuir à l'eau et elle va laisser son jeune sur place. Dans ce cas, dans tous les cas, elle va en faire un l'année prochaine. Le règne animal a un peu moins de scrupules.
Alors, ceux et celles que ça intéresse d'être bénévole chez Picardie Nature ont jusqu'au 21 avril pour postuler pour cette saison 2025. C'est une surveillance à temps plein pendant 2 semaines, hein, c'est ça?
Oui, effectivement, on demande une participation de 2 semaines. Puis il y a une formation initiale en fait, qui est donnée aux personnes qui arrivent pour qu'ils puissent apprendre la biologie de l'espèce et mieux apprécier leur bénévolat sur place.
Et quels sont vos critères de sélection? Parce que vous avez beaucoup de candidats, candidates chaque année.
Oui, effectivement, malheureusement, on est parfois obligé de faire une sélection parce qu'on a beaucoup de personnes qui se mobilisent et on les en remercie. Et en fait, on n'a pas forcément de sélection, il faut juste aimer être dans la nature, aimer parler aux gens. Et comme les bénévoles sont logés en collectivité, en fait, effectivement, il vaut mieux aimer vivre en collectivité avec les autres bénévoles présents.
Quels sont les retours des bénévoles des années précédentes? Comment ont-ils vécu cette expérience?
Bon, en fait, ça reste une super aventure humaine et éco-solidaire. Les gens donnent de leur temps pour la cause animale et ça, c'est vraiment chouette. Et on parle souvent de la bonne ambiance, de l'esprit de groupe, la cohésion en fait au sein du groupe qui permet de mener à bien ses actions et tout ça dans la bonne humeur.
Vous avez besoin de monde sur tout l'été, hein, c'est une large période.
Oui, la surveillance estivale va commencer le 26 mai en 2025 et se terminer le 18 août. Et chaque semaine, il y a entre 8 et 10 personnes qui vont comme ça se mobiliser tous les jours.
Qu'est-ce qu'on peut dire, Sarah, à tous ceux, toutes celles qui espèrent voir des phoques dans la baie de Somme? Comment être sûr qu'on ne les dérange pas? C'est pas facile hein, de se rendre compte.
Ah, c'est sûr, hein, les distances de tranquillité sont compliquées à appréhender dans un milieu tout plat. On parle souvent de 300 mètres pour dire aux gens, c'est pas 10 mètres, c'est pas 50, mais c'est vraiment une grande distance à respecter. Vraiment, le conseil, c'est venez avec des jumelles pour pouvoir les voir sans avoir envie de s'approcher, parce que sinon, ça nous semble être des petits points loin et c'est très frustrant. Donc, toujours apporter ces jumelles pour observer les phoques en baie de Somme.
Oui, 300 mètres, c'est très loin. C'est difficile de se faire une idée quand on est sur la plage.
C'est ça. Il faudrait essayer de s'imaginer les piscines olympiques. On arrive à peu près à s'imaginer la distance.
Ouais.
Et donc, il faudrait plusieurs piscines olympiques entre les phoques et nous pour tranquilliser les animaux à notre présence, en fait.
Et comment sait-on qu'un phoque va bien, qu'il est tranquille? Est-ce qu'il y a des indices dans sa posture ou dans sa façon de se comporter?
Complètement. Il y a vraiment un indicateur, c'est le comportement de l'animal lui-même. Dès que le phoque va lever la tête et nous regarder, c'est qu'on commence déjà à être trop proche. Donc le mieux, c'est de s'arrêter calmement, voire de reculer. Si le phoque repose la tête et qu'il continue sa sieste et que tout va bien, s'il a vraiment, il s'agite et qu'on est vraiment trop proche, il faut absolument reculer dans le calme.
Ah, donc vous êtes en train de dire qu'un phoque qui va bien est un phoque qui dort?
Complètement. La meilleure posture, le meilleur comportement pour un phoque sur un banc de sable, c'est la sieste.
Voilà, un très bel état d'esprit, ma foi. Ça représente combien d'individus, les phoques, dans la baie de Somme?
Alors, en moyenne annuelle, en baie de Somme, on a 550 phoques beaux marins et 500 phoques gris. À savoir qu'il y a des pics saisonniers en fonction de leur mode de vie, de leur période de reproduction. On peut monter qu'à 600, 700 ou un peu plus d'individus pour le phoque beau marin en été, parce qu'il y a les petits qui s'additionnent aux effectifs des adultes. Et les adultes ont besoin vraiment d'un temps de repos très important puisqu'ils vont muer juste après la reproduction. Donc, ils ont vraiment besoin de ce repos au soleil sur le banc de sable.
C'est un trésor exceptionnel hein, pour votre région.
Complètement, c'est un patrimoine naturel pour notre région. Mais en fait, aussi, on a un intérêt en France. C'est la plus grande colonie française de métropole de phoques beaux marins. Donc, c'est vraiment important d'y prendre soin.
Et ça se passe bien la plupart du temps quand on explique aux gens de ne pas s'approcher?
Effectivement, la grande majorité nous remercie pour les infos puisqu'ils ne les connaissaient pas. Il y a toujours quelques individus qui sont un peu plus mécontents d'avoir des consignes à respecter, mais c'est aussi le jeu pour préserver ce patrimoine naturel et la beauté de la baie de Somme.
Voilà, on trouvera sur notre site un lien pour postuler pour cette campagne de surveillance estivale. Picardie Nature, c'est le nom de l'association. Merci beaucoup Sarah Monet.
Merci à vous.
Et bonne journée, au revoir.
Bonne journée, au revoir.
France Inter. Carnet de campagne.
Je vous invite régulièrement à nous signaler des initiatives remarquables partout en France. Eh bien, nous avons reçu récemment le message d'un auditeur pour nous parler de son père, un agriculteur à la retraite qui donne des tonnes de patates au Resto du Cœur. Bonjour Jean-Claude Bouton.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets. Merci à votre fils, donc, de nous avoir conseillé de vous appeler. Vous êtes à Hérissart, à 20 km au nord d'Amiens. Alors, pour que les auditeurs et auditrices comprennent bien votre démarche, il faut d'abord, je crois, expliquer ce qu'est une parcelle de subsistance, Jean-Claude.
Oui, c'est une particularité agricole assez amusante. C'est que lorsque l'agriculteur cède sa ferme en fin de carrière, il a droit de garder une parcelle de subsistance qui va selon les endroits, si vous voulez, selon les départements, de 2 à 3 ou 4 hectares. Pour ma part, j'en ai déclaré une en parcelle de subsistance au moment où j'ai cédé ma ferme et elle fait environ un peu moins de 3 hectares.
Et vous avez décidé d'utiliser cette parcelle pour fournir les Restos du Cœur notamment. Comment est née cette idée ?
Eh bien, nous sommes, mon épouse et moi-même, bénévoles au Resto du Cœur. Et en 2023, il y a eu ce fameux discours de Patrick Douré là, sur le fait que les restos allaient peut-être devoir un jour fermer la porte, tant il y avait de demandes pour rentrer au resto et tant il manquait de ressources. Alors, nous avons décidé, mon épouse et moi-même, de consacrer cette parcelle de subsistance à la production de biens pour les Restos du Cœur.
Et c'est ainsi qu'est née cette opération qu'on pourrait baptiser des patates pour les restos. Comment avez-vous procédé? Où est-ce que vous avez trouvé les plants de pommes de terre, par exemple?
Alors, c'est une petite société d'Arras avec laquelle nous travaillons avant, qui généreusement nous a alloué les plants pour ces 3 hectares de pommes de terre. C'est ce qui a permis, si vous voulez, à l'opération de démarrer.
Parce que c'est cher, hein, les plants?
Oui, il faut compter 2000 euros l'hectare. Et les centaines de pommes de terre ont été réparties dans tous les entrepôts du nord de la France.
100 tonnes au total, c'est pas mal, hein?
Oui, pour nous, c'est pas énorme parce que il faut savoir qu'un hectare de pommes de terre produit entre 40 et 50 tonnes.
Donc, depuis le début de tout ça, vous avez fourni au total 100 tonnes de pommes de terre ou ça a continué ensuite?
Alors, le problème en agriculture, c'est que lorsque vous avez mis des pommes de terre une année, ces pommes de terre, si vous voulez, vous ne pouvez plus en mettre pendant 4 à 5 ans. Mmh. Parce que sinon, la terre ne l'accepte pas. Donc, cette année, on a choisi, si vous voulez, de continuer l'opération avec d'autres agriculteurs.
Voilà, donc vous produisez toujours des patates, mais sur d'autres parcelles.
Oui, alors c'est notre projet, c'est-à-dire que nous prenons les contacts nécessaires avec des agriculteurs, pour l'instant les copains, mais il faudrait mieux que ce soit réparti dans tous les Hauts-de-France.
Donc vous lancez un appel aujourd'hui dans les carnets de campagne ?
Absolument, absolument.
De quoi avez-vous besoin précisément ?
L'année dernière, on a produit 100 tonnes, et cette année, nous avons l'objectif un peu prétentieux de produire 1000 tonnes.
C'est bien, il faut être un peu prétentieux
c'est
parfois.
Oui, c'est rien 1000 tonnes, c'est 25 hectares. 25 hectares de pommes de terre, si vous voulez, quand vous savez qu'en région de France, on produit 10 000 hectares de pommes de terre, 4 500 000 tonnes. Donc, c'est pas si ambitieux que ça, si vous voulez. C'est quand même que quelques agriculteurs qui choisissent de travailler avec nous pour produire ces pommes de terre.
Si vous me permettez cette question, Jean-Claude, vous n'en aviez pas besoin, à titre personnel, de cette parcelle de subsistance ?
Non, absolument pas. Je suis d'un âge déjà assez avancé. Je touche la retraite et, si vous voulez, lorsqu'on cède une ferme, on touche un capital, si vous voulez. L'agriculteur vit pauvre, mais il meurt un peu riche, quoi. Il meurt avec un peu d'argent. Donc, on touche, si vous voulez, le prix de la cession qui fait que ça nous met à l'abri de besoins. Si on produit 1000 tonnes de pommes de terre, on en vend 500 à la grande distribution et aux gens qui utilisent beaucoup de pommes de terre, comme les cuisines centrales, etc. Mmh. Et donc, ça permet de financer les 500 tonnes qui restent pour les associations caritatives.
Mmh. Donc c'est un modèle mixte, hein. Vous en vendez la moitié pour pouvoir financer le reste qui sera donné.
Voilà, parce que maintenant ça devient très difficile pour les Restos du Cœur et autres de survivre uniquement avec les dons. Mmh. Et donc il faut passer à une économie de marché, quoi. C'est ce que je vais essayer de faire.
Eh bien, je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup Jean-Claude Bouton.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Dorothée.
Vous n'êtes pas fâché contre votre fils, donc, qui vous a dénoncé, si j'ose dire ?
Non, c'est un très bon fils.
Bravo à vous et bonne journée, merci.
Au revoir, Dorothée.
Un coup d'œil à l'itinéraire des carnets pour les semaines à venir. Les départements de l'Oise et de l'Aveyron seront bientôt à l'honneur. La France du Nord au Sud. Vous pouvez nous écrire, hein, comme ce fiston fier de son père, pour signaler toutes sortes d'initiatives qui méritent la lumière du côté de Beauvais ou de Rodez.